voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Face aux réalités humaines, économiques et écologiques actuelles, de plus en plus de citoyens s'interrogent sur notre devenir et sur le rôle que chacun peut jouer. Il ne s'agit plus d'être simplement spectateur d'un système qui nous démange, mais de devenir l'un des acteurs du changement. Dans cette émission, La Voix du Kaizen, nous vous emmenons à la rencontre de Kiran Vyas, un être d'exception ayant un parcours plus qu'atypique. Kiran a toujours cherché à harmoniser l'être et le faire.
Bonjour, bonjour Alexandre, je suis très content de vous rencontrer et puis surtout parler sur ce sujet qui me passionne. Quelque part, comment la vie professionnelle ou comment la vie extérieure qui se met en harmonie avec la vie intérieure ou avec nos propres objectifs intérieurs.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit dans un monde très complexe et beaucoup de gens se posent la question de sens, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je me sens bien dans ce que je vis dans mon quotidien, est-ce que je suis en phase entre ma réalité personnelle et ma réalité professionnelle. Et ce genre de questions-là, certaines personnes apportent des réponses. Donc Kiran, on va parler un petit peu aujourd'hui de vous, de votre parcours professionnel, mais j'aimerais qu'on commence par le début. Vous deviez vous présenter, qui est Kiran?
Oh, c'est très complexe, qui est Kiran? Alors il y a un Kiran extérieur qui a fait un certain parcours de la vie, et puis certainement il y a un Kiran intérieur qui a son aspiration profonde vers l'absolu, vers une certaine sérénité divine, ou bien, disons, un chemin spirituel qui m'a toujours attiré depuis ma naissance, je dirais. Mais quand même, bon, déjà, mes parents m'ont donné ce prénom Kiran, et j'essaie de devenir digne de ce prénom. Kiran signifie rayon de soleil. Et j'essaie, dans ma vie, de devenir un rayon, une petite particule de lumière, qui est, selon moi, la réalité absolue de chaque être humain. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, que quand je suis né, mon père travaillait avec Gandhi. Gandhi, on appelait Mahatma Gandhi, la grande âme de l'Inde. Et Gandhi lui avait donné comme tâche de créer une pédagogie pour créer un soldat non violent, une pédagogie d'autarcie et une certaine évolution individuelle de l'être humain. Une idée complexe. Avec l'aide de Gandhi, mon père avait mis un système en place et on appelait ça pédagogie de Gandhi avec 3 H en anglais. Head veut dire la tête, heart veut dire le cœur et hand veut dire les mains. Alors dans cette pédagogie de Gandhi, bien sûr, il faut avoir une éducation de la tête, une éducation intellectuelle, c'est-à-dire apprendre histoire, géographie, mathématiques, chimie, physique, tous les sujets que nous apprenons. Mais en même temps, il faut que le cœur soit présent. L'émotionnel participe et les sentiments devraient rester présents, pas desséchés. Et ça, c'était très passionnant, très intéressant. Et surtout, la troisième partie, les mains, c'est il faut que les mains travaillent. Le travail, c'est le secret même, disait mon père. Tout ce qui se passe, tout ce modèle, entre guillemets, occidental, est fait pour certainement créer une certaine richesse matérielle. Mais en même temps, cette richesse matérielle est contrebalancée par une certaine sorte de misère. D'un côté, misère à l'être humain dans sa propre profondeur, il y aura des manques, et d'autre part, à l'extérieur, il y aurait certainement des bidonvilles et du chômage.
Et ce modèle économique a tendance à diviser aussi les gens entre eux, au sein d'un pays et au sein du monde.
Absolument, absolument. Alors, c'est pourquoi, dès cet instant-là, que cette division soit moins brutale ou que ne paraisse pas du tout, qu'il y a plus d'harmonie et unité entre les peuples, entre le monde, Gandhi avait commencé, et mon père était un des vecteurs assez importants dans ce travail-là. Et je dirais que ça m'a influencé d'une façon discrète et indirecte, mais certainement. Alors voilà, j'ai commencé ma vie avec cette influence de Gandhi.
Et aussi cette influence culturelle qu'est le pays de l'Inde. On est en Inde à ce moment-là. Donc ça aussi, j'imagine que ça grave une empreinte très forte dans la personnalité d'une personne.
Absolument. Alors, il faut que je vous dise, je suis indien, avec des parents indiens, je suis né en Inde, et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, 31 ans, qu'en Inde. Je suis venu en Occident que seulement vers l'âge de 31 ans.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque ? Pour quelle raison vous avez fait le choix de quitter le continent indien ?
Alors tout d'abord, je n'avais pas vraiment fait le choix dans le sens que ça sera une certaine sorte d'exil de si longtemps, plus que trentaine d'années, maintenant presque 40 ans. Non. À l'époque, bien sûr, il y a eu... Dans ma vie, moi je dirais... que toujours j'ai considéré les rencontres avec des personnalités exceptionnelles où leur vie m'a toujours influencé, ou soit par les lectures, soit par des rencontres directes. J'avais rencontré à Pondichéry Malraux, et j'avais écouté sa conférence à l'Alliance française de Pondichéry, et puis on a eu une petite réception où on a juste serré les mains, et puis... Et d'un seul coup, il m'avait juste dit « Ah, mais ce jeune homme, vous pouvez venir en France pour découvrir ce que nous faisons dans ce continent européen, etc. » Et puis, il m'en a parlé, et moi aussi, j'ai réfléchi sur ces trois mots de la France, « liberté, égalité et fraternité ». Alors, je me suis dit « Pourquoi pas ?»
Alors, on va s'intéresser à ce travail, ou plutôt à cette vie professionnelle. Donc à ce moment-là, Kiran arrive en France avec donc la volonté d'y rester, de faire les démarches administratives pour pouvoir obtenir des papiers qui permettent d'étudier en France, et avec un premier travail dans l'UNESCO. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà cette recherche de sens dans sa vie ? Pourquoi travailler pour l'UNESCO ? Et à quel moment ? Est-ce qu'il y avait la cohérence à ce moment-là entre les valeurs, l'intériorité de Kiran et ce que vous mettiez en œuvre dans cette vie professionnelle?
Pour moi, j'ai presque jamais voulu travailler pour quelqu'un d'autre, entre guillemets, on pourrait dire. C'est-à-dire, je suis toujours resté indépendant dans mes idées, même quand j'ai fait mes études à Pondichéry. Mon objectif était de répandre cette idée de l'éducation qui nourrit le corps, qui nourrit l'âme à l'intérieur. Et on va pas dire que j'ai une âme, mais on va plutôt dire que l'âme a un corps. Et ça change tout. Et c'est-à-dire, pour moi, cette réalité du fort intérieur était très importante, et c'est ce que je voulais partager par le biais de l'éducation. Pour vous situer, je suis plus dans cet esprit de liberté totale dans la tête. Et pour continuer cela, je suis venu ici.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Parce que moi, il faut que ce qu'on fait doit vraiment s'accorder avec ce qu'on est. Mais en même temps, on est des fois imposé. Ça, je comprends bien. Des centaines et des milliers de personnes qui sont obligées de faire un travail professionnel. Et puis, à côté, ils sont obligés de faire une vie dans laquelle ils peuvent faire quelque chose pour eux-mêmes, mais ça divise leur vie.
Un moment dans son parcours personnel, certaines personnes se posent face à leur quotidien et font un changement radical. Certaines arrêtent leur travail pour essayer d'être plus en phase avec leur idée, et c'est possible.
Absolument, c'est possible. Et je dirais, plein de gens qui ont fait autour de moi, et moi je n'ai pas fait d'une façon si radicale, parce que quelque part je me dis que j'étais déjà sur ce chemin-là, mais quand même, extérieurement parlant, si, j'ai fait aussi des changements qui sont diagonalement opposés dans la tête des autres, j'ai fait des changements, dans le sens que déjà quitter l'Inde avec ce travail passionnant, venir ici, ne savoir que puis-je faire. Et puis après, d'un seul coup, en 82, j'ai décidé de quitter l'UNESCO complètement et me mettre dans le domaine de yoga et l'Ayurveda, qui était pour tous les amis d'ici ainsi que de l'Inde, quelque chose complètement, comment dire, bizarre, parce que il y avait la sécurité financière que je quittais. Mais quand on m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire, j'ai dit oui, je vais donner des cours de yoga, je vais enseigner le massage, la culture indienne. Alors on m'a dit, oulala, ça, on ne sait pas si ça pourrait se faire. Et pourtant, en 1982, j'ai commencé ce centre Tapuvan, d'abord à Paris, et puis plus tard, en 90, en Normandie. Et c'est vrai que ce changement était très important, quelque part, dans ma vie.
Qu'est-ce qui a inspiré ce projet? Pourquoi s'être dirigé vers la création de ce centre, d'abord à Paris? Quelle était l'origine de ce projet?
L'origine est multifacette, je dirais. Une raison très terre-à-terre, ou même une des vraies raisons, c'était que, à l'époque, je donnais quelques cours de yoga, quand même amicalement, pour une association. Et puis, je discutais, à part mon travail, un peu sur la philosophie indienne, sur diverses pratiques indiennes d'intériorisation. Et j'ai rencontré un prêtre catholique. Un jour, il me dit que c'est l'heure, à 19h, il faut qu'il aille vite. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il a à cette heure-ci? Puis il m'a dit que c'était l'heure qu'il méditait. Et puis moi j'ai dit, oui, moi aussi je médite, mais maintenant je n'ai plus cette fixité ou l'heure fixe quand j'ai le temps. Mais on a commencé à méditer ensemble, tous les deux, et comme ça, une fois par semaine, on méditait dans mon petit appartement dans le 14e. Mais ça, c'est une des raisons qui s'est développée comme un centre, je dirais. Parce que d'autre part, je me disais que le travail à l'UNESCO, qui est magnifique, c'est international, on fait des bonnes résolutions, on essaie de répandre des idées exceptionnelles. Mais en même temps, cela reste presque pareil dans les pays du quart-monde, du pays troisième. Et les pays riches ont toujours envie de devenir riches, les pays pauvres, on les exploite d'une façon directe ou indirecte, et ce n'est pas si facile que ça. On a dépensé plus de fortune qu'on a vraiment donné comme une aide. Alors toutes ces petites questions que je me posais dans mon esprit, et c'est vrai que je suis aussi un homme de terrain. Je dirais tout ça, c'était subconscient. Maintenant, quand on me pose la question, ou des personnes comme ça, quand vous me posez des questions, je pense que certainement ça a dû jouer. Voilà, alors Tapuvan, c'est un centre de yoga et d'Ayurveda. Alors les pratiques principales de Tapuvan sont organiser les cours, les stages et les formations de yoga. Et la même chose par rapport à l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda est une médecine en Inde, est aussi une science, est aussi une façon de vivre, mode de vie. Et la première chose en 80-82 que j'avais pensé par rapport à l'Occident, qui pratiquait le yoga, les postures de yoga, mais je me suis dit, l'Occident a plus besoin de l'Ayurveda que le yoga. Ce qui est beaucoup mieux, c'est l'Ayurveda, où on prend soin du corps physique, où on prend soin de sa santé, on prend soin aussi de sa beauté, et surtout, avec l'Ayurveda, on pourrait être en pleine forme, en plein élan vital, en pleine énergie.
Tapovan, ce que je trouve aussi intéressant avec ce projet, c'est qu'aujourd'hui, Tapovan s'est inséré dans une structure économique et est génératrice d'emplois. Donc on peut partir d'une idée, hein, d'une cause, d'une croyance qu'on défend et arriver tout à fait à en vivre et à faire vivre d'autres personnes.
Ah, une question fondamentale et très difficile à répondre, surtout dans cette période de crise où ça touche tout le monde. Y compris Tapovan a été bien frappé par cette crise.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
En ce qui concerne l'objectif de Tapovan et la façon de travailler de Tapovan, ça n'a jamais été dès le premier jour pas le concept de bénévole ou de don. Moi, j'ai toujours considéré qu'on doit travailler et peut-être qu'on doit travailler et il faut avoir l'échange. C'est-à-dire, je peux enseigner contre le travail de quelqu'un. Mais plus tard, je me suis dit non, il vaut mieux être dans les normalités d'une entreprise. Et c'est pourquoi Tapovan, maintenant, et presque tout de suite après 3-4 ans, on a transformé dans une SARL. Et d'ailleurs, Tapovan est un des premiers centres de yoga qui a payé des TVA sur les cours de yoga. Parce que je me suis dit, ce n'est pas l'enseignement par la loi est considéré comme quelque chose qui n'a pas besoin de payer la TVA, mais si c'est une prestation de service. Et nous, selon moi, on faisait une prestation de service aux gens. Les gens sont stressés, sont fatigués, on leur donne un cours de yoga. C'est une sorte de service de détente. Et alors, d'une façon réfléchie sur l'économie, moi je reviens de nouveau vers mes idées de base. C'est-à-dire qu'il faut que les mains travaillent pour chaque être humain. Que même vous êtes là, je suis là, il faut que chacun mette ses mains dans la terre. Et la terre est toujours fertile. La Terre va toujours nous donner des résultats.
Ce que j'ai envie de dire, peut-être pour conclure cet échange et cet entretien, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde compliqué où il est temps de se poser les bonnes questions pour essayer d'amorcer une transition, vivre autrement. Hein. On est dans ce clivage, dans ce changement de paradigme où il est vraiment important de se positionner autrement. Et on a tous, en tant que citoyens, un rôle d'acteur, l'acteur du changement. Et je reprendrai ce que disait aussi Satish Kumar, un autre Indien, qui disait qu'aujourd'hui, si ça paraît compliqué de trouver sa place dans la société, plutôt que de la chercher, et chercher un emploi, mieux vaut le créer.
Je suis 100% d'accord. Mieux vaut créer.
Son propre emploi en fonction des valeurs qu'on porte.
Absolument. Et avoir le courage de vivre. Il faut avoir le courage de travailler, rester avec les vieilles valeurs, avec les vieilles traditions qui sont mortes quelque part. Même le système d'éducation, je dirais, c'est très archaïque. Même la façon de travailler est très archaïque. Même la façon même de penser que de 9h à 5h, il faut travailler, cette idée n'est pas juste non plus. Et c'est pourquoi vous verrez que les métiers où on n'est pas dans cette 9h à 5h, les gens sont plus heureux. Il y a quelque chose plus que ces 9h, 5h, c'est-à-dire qu'aller où l'image française métro-boulot-dodo, vous voyez, si on arrive à sortir de cette sorte d'image, certainement ça pourrait nous aider.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.